Bonjour les filles, bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous vous préparez de la meilleure manière à Rosh Hashanah qui arrive à grands pas. On est quelques heures, quelques petits jours avant Rosh Hashanah et on va, Bezrat Hashem, étudier en profondeur, parce qu'il n'est question que de profondeur, des sujets très importants concernant Rosh Hashanah, concernant le shofar. Et de façon à bien se préparer, Bezrat Hashem, à ce grand jour, ce Yom Hadin. Alors d'abord, je veux vous remercier de tout ce que j'entends, de tout ce que je lis. Vous êtes vraiment magnifique. Non seulement ça m'encourage, mais je vois combien ça fait de choses, de vagues autour de ces audios-là que Dieu me donne l'occasion de faire chaque semaine. Bah au Hachem, même lorsque j'étais en Israël, j'ai essayé de tenir au mieux le rythme. Je vous ai, à part celui que je vous ai envoyé l'année dernière parce que je ne pouvais pas le faire, il y avait malheureusement une levaya à laquelle je tenais d'aller. Mais les audios, les autres que j'ai fait quand j'étais en Israël, c'était pendant la nuit. Il était 3h, 4h du matin et 4h30 même le dernier. Mais voilà, même dans la nuit, etc., je comptais à tenir le rythme parce que j'ai entendu que lorsque j'ai entendu d'une personne importante, d'un des fils du Shaliach de France, que lorsque on a une kviout, c'est-à-dire on a quelque chose de fixé sur terre en termes de shiurim ou en termes de mitzvah, dans les cieux, on attend ce shiur ou on attend cette mitzvah. Donc, même tard, ben, je comptais, avec l'aide de Dieu, je tenais à le faire. Et Baruch HaShem, voilà, on a réussi. Et quand je vois tout ce que ça fait, les efforts que plein de femmes font grâce à cette Torah qu'elles étudient via ces audios-là, grâce et les efforts qu'elles font, les progrès, les changements, l'étude qu'elles apprennent et tout, je remercie HaKadosh Baruch Hu, je remercie le Rabbi de me donner comme ça l'occasion de faire ça. Et je voudrais également vous remercier. Parce que grâce à vous, chaque semaine, je me mets à un limoud, mais vous pouvez même imaginer combien d'heures ça me prend. Mais je vous remercie parce que grâce à vous, Baruch Hashem, chaque année, j'apprends encore et encore et encore. Et on n'a jamais terminé d'apprendre, on n'est jamais rassasié d'apprendre. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous, en sachant que vous attendez ça, en sachant que j'ai ce rendez-vous hebdomadaire avec vous. Et ça m'encourage et j'étudie et beaucoup de choses, bon, au prochain, et grâce à vous, j'apprends énormément et j'ai un grand plaisir à vous le transmettre. Donc voilà, je voulais vous remercier. On va faire cet audio-là, Leilui Nishmat, Yehoshua ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekutiel ben Esther, Esther Myriam bat Baruch Elei, Baruch Otiamim, Karen bat Yehuda et Shoshana bat Chana. Alors, on va apprendre des sujets très importants. Des sujets fondateurs de Rosh Hashanah. On va étudier, Bezrat Hashem, quelque chose, des nouveautés que j'ai apprises encore grâce à l'étude des Sichot du Rabbi, des Ma'amarim du Admor HaZaken, grâce à la Torah du Rav Rosenblum, Baruch Rosenblum, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer quand j'étais en Eretz Israël, malgré le fait que je m'étais promise d'aller à son cours en physique, parce que ça fait des années que je le suis sur YouTube, je suis abonnée à sa chaîne, et j'ai des cahiers entiers de ces shiurim que j'ai traduits. Et je tenais vraiment à y aller, mais bon, c'est comme ça, j'ai pas pu le faire. En tous les cas, voilà, j'essaye au maximum de vous transmettre aussi sa Torah, qui est une Torah un limoud de franchement de haut niveau. Et que Dieu nous donne l'occasion d'évoluer et de progresser dans ces chemins-là qui lui font honneur. Le limoud à Torah des femmes, il n'y a pas comme le limoud à Torah des femmes. Alors, on est quelques jours encore au mois de Elul. Demain, c'est l'anniversaire du monde. Chafé Elul. Demain, le monde, il a été créé. Il aura été créé depuis 5782 ans. Et Rosh Hashanah, ça sera la création de Adam Harishon, qui aura l'anniversaire de la création de l'homme, qui fêtera son 5782e anniversaire. Baruch HaShem, c'est pas jeune, non, mais il y a encore beaucoup d'années à vivre et beaucoup d'espoir derrière tout ça. Et les Chachamim nous disent que pendant le mois de Elul, quelque chose qu'on avait appris au mois de Av, et bien Aryeh Yishag Milo Yira. Le lion, ce lion céleste, ce lion qui on a parlé au mois de Av, qui c'est Mazal Aryeh, au mois de Elul, il rugit. Et quand le lion rugit, Miloïch Hag, qui n'a pas peur, comme ça disent les Chachamim, de quel lion on parle? Et les Chachamim nous disent, regarde le mot Arié. Arié, ça s'écrit Aleph, Resh, Yud, He. Aleph, c'est Elul, Resh, c'est Rosh Hashanah, Yud, c'est Yom Kippour, et He, c'est Hoshana Rabba. C'est exactement la période à laquelle, depuis le mois de Elul jusqu'à Hoshana Rabba, où nous lisons le David, Hachem, Ori, le Tehillim 27. Et je voudrais vous en parler un petit peu, que ces Yamim Noraim, quand ces Yamim Noraim approchent, eh bien, qui ne tremble pas? Qui n'a pas peur de ces jours qui rugissent de plein de choses? Et quels sont les mots qui se cachent derrière ces rugissements? Eh bien, c'est reviens. Reviens vers moi. Rentre à la maison. Viens. Je t'attends. Dit Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette période-là de Elul qui nous invite à ce retour vers soi-même. Cette période-là de Rosh Hashanah qui nous invite à nous concentrer sur les profondeurs de tout ce que Dieu nous a donné, on va en parler, Bezrat Hashem. Et tout ça, Akadosh Baruch Hu nous dit, avant de revenir sur ta vie, avant de faire le point de tout ce que tu as eu pendant l'année, etc., etc., de toutes les difficultés que tu as eues, je te demande de faire une chose, de voir tout ça sous le prisme du bien. C'est-à-dire, vois en tout cette année qui est passée, vois en tout cela le bien. Et pour cela, pour l'année à suivre, pour l'année suivante, si Dieu veut, eh bien, le maître mot, c'est la fin, la dernière passouk le dernier passouk du Tehillim Chafzaïn, qui est Kaveh El Hashem, Chazak Veyametz Libecha Vekaveh El Hashem. Le Tehillim Chafzaïn, c'est le Tehillim qu'a écrit David Ameller, qui parle de plein de choses, mais qui parle également des Chagim, qui parle également de Elul, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, je vais le prendre là sous les yeux, de Rosh Hashanah, de Yom Kippourim et de Sukkot. Alors, je vais le prendre et je voudrais le traduire. Vous traduire en tous les cas une bonne partie du Tehillim. Et le Tehillim, celui-là, ce Tehillim-là, il termine avec Kaveh El Hashem, Chazak Ve'ametz Libecha Ve'Kaveh El Hashem. Crois en Dieu. On en a déjà parlé, mais est-ce qu'on peut s'arrêter d'en parler? Est-ce qu'on doit le dire, le répéter juste une fois? C'est impossible. Ce sont des mots qui sont tellement forts, tellement puissants et qui résonnent au plus profond de notre âme qu'on ne peut pas le dire juste une fois au mois de Elul, ok? On dit le David Hachamori. Eh bien, le dernier passouk, c'est le David Hachemori, pardon, Kaveh El Hashem, Chazak Viyames, Lebecha, Kaveh El Hashem, c'est une roue comme un cercle qui n'a ni début ni fin. Espère en Dieu, dit Akadosh Baruch Hu, dit David Ameller, pardon. Espère en Dieu, renforce ton cœur et raffermis-le, et espère encore en Dieu. C'est-à-dire que dans ces périodes-là où on a peur du jugement, on ne sait pas ce qu'il en sera, ce qu'il en tiendra. Est-ce que Dieu va nous redonner tout ce qu'il nous a donné? Est-ce qu'il va nous grandir encore plus? Est-ce qu'il va nous laisser à notre place? Ou, chas v'shalom, le contraire. Alors, la seule chose qui fait que nous soyons, que nous restions fortes, c'est le kav. Kaveh, c'est espère en Dieu. Kav, kouf, vav, c'est une ligne droite. Cette kav-là, qui te lie à Kadosh Baruch Hu en ces périodes, en ces jours-là tellement importants, cette droite, elle ne doit jamais défaillir, elle ne doit jamais trembler. Cette droite qui te lie à Dieu, c'est cette droite qui fait que au moment de Rosh Hashanah, Yom Kippour et les Chagim plus joyeux, c'est-à-dire moins redoutables, eh bien, c'est cette droite-là qui fait que tu places espoir en Dieu et le fait de le faire, le fait d'espérer en Dieu, comme dit David Ameller, Kaveh El Hashem, Chazak Ve'Ametz Libecha Ve'Kaveh El Hashem, fera que tu verras un bien tangible. C'est ça ce qu'ils disent les Chachamim. Tu verras un bien tangible dans l'année qui viendra parce que de toutes les manières, la droite qui te lie à Dieu, ce fil droit auquel tu es attaché d'un côté et lui le tient de l'autre, ne va pas bouger. Il est ferme en ton cœur. Ce lien est ferme en toi et est ferme en ton âme. Et donc, ça te donnera un bien tangible, un bien que tu pourras voir. Alors, les rabbins posent la question, comment voir le bien? Comment pardonner? Comment pardonner après avoir traversé beaucoup de difficultés, après avoir eu des épreuves, etc., etc. Comment pardonner? Il y a une force qui te donne envie de pardonner, d'avancer, une force qui te donne des ailes pour continuer à te lever tous les matins. C'est l'oratson, c'est la volonté. La volonté, elle est plus forte que tout. Quand tu décides que malgré la situation que tu as vécue, malgré les difficultés que tu es en train, bichlal même, de vivre, tu décides de vivre. Tu décides de penser à toi. Tu décides de t'occuper de toi. C'est-à-dire que, ok, la situation, elle est très compliquée. Il y a des personnes qui te veulent du mal. La relation avec ton conjoint est compliquée et difficile même. La relation avec tel et tel enfant, elle se complique de plus en plus. Il commence à devenir à un âge, il commence à grandir et il a atteint un âge qui est difficile, 15, 16, 17, etc. Et c'est très compliqué, ces âges-là. Alors, viens. Cette période-là, bien cette période-là des Yamim Noramim, mais qui te dit, cette période-là, et qui te dit, sache vouloir encore. Fais naître en toi ce ratson. Fais naître en toi cette volonté. On te veut du mal. Ici, c'est difficile, etc., etc. Tu ne peux avoir que de la peur, que de la peur qui t'envahit. Mais face à cette situation, tu as un lion. Tu as un lion qui rugit et qui te dit, viens vers moi. Et ce lion-là, c'est l'expression de ces yamim, de ces jours que nous allons vivre, Bezrat Hashem, dans lequel il faut raffermir notre espoir en Dieu, dans lequel il faut augmenter la emouna de notre cœur, nous les femmes qui savons très très bien ce que ça veut dire avoir la emouna, parce que c'est vraiment notre moteur du quotidien. Eh bien, pendant ces jours-là, ce rugissement-là retentit au fond de ton âme et te dit reviens vers moi, viens vers moi ou reviens vers moi, avec plus de force, avec plus d'intensité, et occupe-toi de toi. Recentre-toi sur toi-même. Même si tu es entouré d'obscurité, même si tu es entouré de difficultés, décide de continuer. Décide d'être plus haute, d'être plus grande, de ne pas te laisser avoir dans les labyrinthes de tous ces problèmes qui visent à te tirer vers le bas et qui visent à te faire avoir un moral à zéro, qui est l'œuvre du Satan, et qui visent à te dire, voilà, tu n'arriveras jamais, tu es bonne à rien, tu n'as pas de mazal, tu réussiras pas dans ça, et les chidouchim, c'est terminé, et ça, c'est terminé, ça fait des années que j'attends ça, et ça fait des années que je prie pour ça. Tout ça, ça vise à te donner une tristesse qui pèse sur tes épaules et qui t'empêche de te relever. Mais viens, Arié, viens le Arié, Arié chez Yishag, Milo Yirah, ce lion qui rugit et qui te dit, et qui n'a pas peur, ce lion qui rugit te dit, viens vers moi, rentre à la maison. Et c'est uniquement ce retour vers soi-même, vers son moi intérieur, où tu décides de prendre de la hauteur, tu décides d'être plus grande que tout ce qui t'entoure. Sans, il s'agit pas de pas prêter attention, mais il s'agit de ne pas te laisser les pieds et les mains enlisés dans cette boue-là. Eh bien, c'est cela qui fait que tu auras le ratson de continuer. Ok, on m'a mal parlé. C'est vrai, il m'a vexé. C'est vrai, cet enfant, il me pose des problèmes. C'est vrai que j'entends des choses difficiles sur telle personne et telle personne. J'ai des relations compliquées avec ma mère, j'ai des relations compliquées avec cette amie, avec peu importe. Peu importe les relations compliquées que tu as. Peu importe les difficultés dans lesquelles tu es. Le fait que tu places ton espoir en Dieu, Kaveh Hashem, Chazak Ve'Ames, Libra Ve'Kaveh Hashem, alors ça te donne ce ratson de vouloir continuer à être plus haute, à être plus forte. Pas avec un cœur orgueilleux, Chas V'Shalom, pas du tout. Avec un cœur qui est placé dans les mains de Dieu, envers qui tu dis, aide-moi à avancer. Donne-moi le ratson pour pouvoir continuer à rester droite, debout, classe. À rester classe. Ne t'amochis pas. Ne t'amochis pas. Ne deviens pas sale. Ne te rends pas impur par des mots qui insultent, par des comportements qui te dégradent. Garde ce que tu es, garde ta pureté. Et ça, c'est très important dans ces moments-là où le lion rugit. Et cette force que tu développes en toi, du ratson de vouloir continuer malgré les difficultés, alors D'où elle a une source, elle a une source cette force-là. Elle n'est pas gratuite. Cette période-là, elle te donne cette force de continuer, ce ratson de pouvoir te lever le matin et de continuer à répondre à toutes les missions que Dieu t'a confiées. Cette force-là, elle est inhérente au mois de Elul et de Tishri. Comment elle s'appelle cette force? Elle s'appelle les Shlosh Midot, les Yud Gimel Midot Arachamim, c'est-à-dire les 13 réservoirs de bonté que Dieu est prêt à ouvrir sur toi. Réservoirs de bonté, réservoirs de rachmanou, des réservoirs de patience, réservoirs d'écoute, réservoirs d'amour. Tout ça, Dieu, il te le donne. N'est-ce pas que dans ce même Tehillim, David HaMelech, il dit 13 fois le Shem HaVayeh. 13 fois, on l'a dit l'audio dernier, 13 fois le Shem HaVayeh Yud Kevavke, qui est l'expression du nom divin de la Rachmanout, du nom divin de Midat HaChesed. 13 fois, parce que 13 Midot HaRachamim brillent en ce moment, jusqu'à encore longtemps, jusqu'à la fin du mois jusqu'à la fin de Yom Kippour. Et même après, même après. Même après pour Sukkot, et même après pour Hoshana Rabba, Sukkot, Hoshana Rabba, Simchat Torah, etc., etc. Et c'est 13 Midot HaRachamim. C'est justement ce retour vers ce t'aide à faire ce retour vers toi-même, ce retour profond, vers le moi le plus pur, le plus débarrassé de tout ce qui te rend négatif, de toutes ces énergies négatives. Tes 13 midot harachamim, Dieu te les tend. N'est-ce pas que Shlomo HaMelech, on l'a dit la semaine dernière, il exprime ça par une rose, une shoshana, si shoshana c'est une rose en tous les cas, une rose aux 13 pétales, une rose à la 13 pétales. Pourquoi elle est appelée, pourquoi Dieu nous compare à une shoshana, à une rose? Parce que justement, il nous aime avec ses 13 chemins, ses 13 voies d'amour qu'il déverse sur nous. Et ça, c'est en ce moment. Et à ce moment-là, alors, quand tu fais ce retour vers toi-même, quand chacune fait ce retour vers soi-même, alors elle ressent, elle trouve ici quelqu'un qui est là, elle trouve ici un visage qui l'attendait et qui lui sourit. Elle le ressent au plus profond d'elle-même. Ce visage-là, c'est Panim Sofrakot. C'est le visage souriant dont il est question dans les Mamarim du Admour Hazaken, très profond, très profond, qui ont été repris par d'autres. Oui, je le répète à chaque fois, c'est pas grave, qui ont été repris par d'autres. Mais c'est le Admour Hazaken qui nous a fait descendre cette Torah Tachassidou tellement profonde, de Panim Sofrakot, que Dieu nous adresse un visage bienveillant, un visage souriant, un visage aimant, avec un sourire chaleureux, et il n'attend que ce retour justement vers lui-même, vers son moi intérieur, parce que le retour vers ton moi, c'est le retour vers Dieu. Dieu et toi, c'est la même chose. Dieu et l'âme qu'il a placée en toi, c'est la même chose. Et tout ça s'est exprimé dans le Tehillim Chafzaïn, le Tehillim 27, que nous lisons deux fois par jour, selon le Harizal, après Shacharit et après Mincha. Et là-bas, le Tehillim, il commence par le David Hashem Ori Yishimimi Ira. Dieu est ma lumière, dit David HaMelech. Dieu est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je peur? Oui, je dois avoir peur du mois de Elul et je dois avoir peur du Yom HaDin, de Rosh Hashanah. C'est sûr que je dois avoir peur. Je dois avoir peur de Yom HaKippourim. C'est sûr que je dois avoir peur. Mais non, David HaMelech dit, mais Dieu, c'est ma lumière. Dieu, c'est ma lumière. Dieu, c'est mon sauveur. Pourquoi j'aurais peur? C'est en lui que je me réfugie. Yamim Noraim, cette crainte-là, à Yamim Noraim, elle est apaisée par le lion. Par le lion lui-même, c'est-à-dire par HaKadosh Baruch Hu lui-même, qui est certes, oui, le juge, mais il est aussi Avinu. Une fois, il y avait deux personnes, deux petits-enfants qui devaient se faire juger. Et avant de passer devant le juge, l'un des deux tremblait. Et il s'était habillé en noir. Et il avait laissé pousser ses cheveux. Il avait oublié de se laver, etc. Et l'autre, il s'habillait en blanc. Et il s'embellissait. Et il s'arrangeait. Il était parti chez le coiffeur. Et etc. Et lui, celui qui était complètement déprimé, il lui dit, comment tu peux être aussi joyeux? Tu vas passer devant le même juge que moi. Comment tu peux t'habiller comme ça en blanc, comme si que c'était la fête? Et celui qui était joyeux lui répond, oui, tu as raison, je vais passer devant le juge et je vais me faire juger. Mais je n'ai pas peur, car le juge, c'est mon père. C'est exactement ce qui se passe à Rosh Hashanah. Bien sûr qu'on tremble, bien sûr qu'on a peur, bien sûr Miloïr a du lion qui rugit, mais on est rassuré Parce que David Amener nous le dit dans Tehillim, Hachem Ori, Dieu est ma lumière, c'est lui qui me tend cette lumière vers moi, la lumière de son visage, il adresse, il m'éclaire la face de la lumière de son visage et il me libère des méandres de cette peur-là. Donc, le Adumo Razaken, il continue à analyser ce passouk-là et qui est toujours dans le Tehillim, hein. Lecha amar libi bakshu panai. À toi, mon cœur dit, recherchez ma face. Mon cœur me dit à moi, à moi-même, recherche la face de Dieu. Mon cœur t'adresse à Kadosh Baruch Hu des mots. Et il veut te rechercher. Lecha amar libi bakshu panai. Comme ça dit David HaMelech dans le Tehillim Chavzaïn, qui est très important, les filles, de continuer à dire deux fois par jour. Que veut dire bakshu panai? Le Admor Hazaken, il dit que panai, c'est panim. Panai, c'est ma face. On recherche la face de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire panai? Panai, ça rappelle la pnimiyut, la profondeur. Le visage d'une personne révèle ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. N'est-ce pas? Que quelqu'un qui sait, qui est pas bien, par exemple, qui ne t'adresse pas de mots spécialement, mais qui a une expression du visage qui n'est pas très joyeuse. Alors, tu peux voir déjà par l'expression de son visage qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Rares sont les personnes qui peuvent cacher complètement, complètement. Il en existe. Mais la face extérieure, elle révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand il est question de Bakshu Panay, moi, je recherche ta face, Hachem. Mon cœur me dit rechercher ma face. Eh bien, je recherche la plimut halev. Je recherche la profondeur du cœur. Et le Admor Hazaken, il explique qu'est-ce que ça veut dire la profondeur du cœur. Il explique que Hachem donne l'occasion à chacun de nous, au moment du mois de Elul et des moments des fêtes de Tishri, de ressentir le lien personnel que Dieu a avec chacun de nous et le ressentir au plus profond de son cœur. Mima kim karaticha Hashem. Des plus profondeurs de mon âme, je t'ai invoqué. Et lorsque notre cœur recherche ce lien profond avec Akadosh Baruch Hu, des fois, il y a des personnes qui s'éveillent, qui ont un éveil comme ça. Elles ont envie, mais elles faisaient rien. Elles ne faisaient pas de mitzvot tellement. Et au fur et à mesure, elles font une et deux et trois. Et aujourd'hui, tu fais le bilan de leur vie. Au bout de 10 ans, mais combien elles ont progressé? Au bout de 20 ans, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? Parce qu'elles ont recherché la face de Dieu. Elles ont recherché cette profondeur. Et quand elles recherchent cette profondeur, alors dans les cieux, ça déclenche un rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Du Hatzmout, de l'essence même de Dieu, ça le rapproche de nous, de cette personne-là. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il répond à cet élan. Du plus profond de ton cœur, du plus profond de ta personne, il n'y a que lui qui l'entend. Personne ne l'entend, sauf lui. Et il répond depuis les hauteurs célestes. Car cet élan que tu as vers lui, cet amour que tu veux développer vis-à-vis d'Hachem, Bakshu Panay, que ta face, elle le recherche. On a expliqué que la face est Pnimiut HaLev, dit l'Admor Hazaken. Alors, ça l'atteint, ça atteint Hachem, Bichvodo Beatzmo, à l'intérieur de lui-même dans son Etzem. Et ça nous donne envie de tout recommencer. Il y a des personnes, je vous assure que j'en connais beaucoup, beaucoup, qui à un instant T de leur vie ont décidé de tout recommencer, ont décidé de renaître. Elles ont décidé de refaire tout le schéma de leur histoire. Comme ça, où elles ont eu un élément déclencheur, où elles ont eu un élément déclencheur de l'intérieur, une pnimiut halev. Comme ça, quelque chose qui est venu, une taruta dilta'ata, c'est-à-dire une tororut lemata, d'en bas. Un éveil d'en bas. Et elles ont eu le miroir céleste, c'est-à-dire l'éveil d'en haut qui leur a répondu. Eh bien, cette envie de redémarrer, de tout recommencer, cette envie de renaissance, elle est exprimée dans le mazal du mois de Elul. Le mazal du mois de Elul, c'est mazal Betoula, le mazal de la jeune fille, de la pureté. C'est-à-dire, la jeune fille, ça veut dire celle qui n'a rien commencé. C'est comme ça dans la réalité des choses. C'est comme ça. Une jeune fille n'a rien commencé. Elle n'a pas eu de relation avec un garçon. C'est-à-dire qu'elle est encore à l'état. Voilà, elle n'a rien inauguré. Elle a, avec son mari, je veux dire. Pas avec un garçon, parce que c'est interdit qu'une jeune fille ait une relation avec un garçon. Mais elle ne s'est pas mariée. Donc, du fait qu'elle soit encore jeune fille, elle exprime comme ça la pureté. Tout est pur. C'est le mazal betula qui est l'expression du mois de Elul. C'est le ratson du Khadash. C'est la volonté de vouloir de prendre une nouvelle direction, une nouvelle naissance, une émouna renouvelée. Et le Midrash, il nous explique comment c'est venu mazal betula. Le Midrash, il nous explique la chose suivante. Il dit que il y a deux anges dont on avait parlé dans un autre audio. Deux anges qui ont critiqué, je vous l'ai dit en rapide, hein, qui ont critiqué l'homme, en critiqué les faiblesses de l'homme en disant à Kadosh Baruch Hu, lui, l'homme, il pêche avec ses penchants. Si toi, tu nous descends sur terre, tu verras combien on va résister. Ah oui, vous voulez tenter? Ok. Donc Dieu les a fait descendre sous terre, ça s'appelle les Bnei Elohim, les enfants de Dieu. C'est les anges, ces anges-là. Et ils sont devenus des hommes. Et d'ailleurs, d'eux est descendu les Néphilim, les géants, les hommes complètement difformes. Et donc, ils ont vu une belle jeune fille, une Bétoula, et ils sont partis la voir en lui faisant des avances. Et la Bétoula, être humain, la Bétoula, elle leur a dit, j'accepterai que si vous me donnez vos ailes. Vous savez que Yechezkel, il décrit l'ange, et l'ange a six ailes, deux en haut, deux au milieu, deux en bas. Et elle leur a dit, cette Bétoula, cette jeune fille pure, donnez-moi vos ailes d'abord. Et une fois ils ont accepté, donc ils n'avaient plus d'ailes pour s'élever vers Dieu, ils sont restés sur terre d'ailleurs, dans les confins du monde, on en avait parlé une fois. Et une fois que cette jeune fille a eu ses ailes, leur a pris leurs ailes, elle a volé jusqu'au Kissa Kavod et elle a demandé à Dieu de la protéger. Et HaKadosh Baruch Hu a dit, de toi je mettrai le Mazal Elul, la Betula, celle qui se protège de toutes les fautes, celle qui fait que la personne elle reste pure, elle cherche à renaître. Alors ce Midrash, il est à prendre à plusieurs niveaux, évidemment. C'est peut-être un Midrash qui est juste une image. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire l'image de la Betula, l'image des ailes, l'image de s'envoler vers? Tout ça, c'est Chodesh Elul, tellement c'est beau, j'adore. Les Gdolé, Hassidout, les grands maîtres de la Hassidout nous expliquent la chose suivante. Ils expliquent que le mois de Elul s'appelle Betula, justement pour l'histoire de cette Betula. Justement pour exprimer qu'on est à l'image de cette Betula. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est confronté à une heure, à l'heure de vérité. Vous savez que chacune de nous, à un instant T de sa vie, parfois même plusieurs, à un instant T de sa vie, on est confronté à un tournant capital. C'est j'y vais pas. C'est je parle, je me tais. Ou je me tais. C'est j'accepte ou j'accepte pas. Je touche ou je touche pas. C'est un tournant qui est très important. Et là, c'est l'heure de vérité qui va se révéler. C'est qu'est-ce que tu vaux finalement? Est-ce que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as étudié, est-ce que c'est pour rien? Et là, tu vas tomber. Ou non, tu te renforces. Alors, chacun de nous est confronté à une heure de vérité dans sa vie. Et il faut avoir les forces à ce moment-là de se faire pousser des ailes. De se faire pousser des ailes. Et de s'envoler pour prendre de la hauteur. Mais comment c'est beau? Comment c'est beau cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette jeune fille magnifique? Qui est peut-être une métaphore, hein, je répète, hein, ou qui est le Hémet, je sais pas, c'est pas à moi à juger si ce Midrash il est à prendre à la lettre ou s'il est à prendre en termes de message. Mais peu importe, l'un ou Ben Kach, il est magnifique. C'est face à une heure de vérité qui se présente à toi, où tu as un défi à relever, que là, tu demandes à Kadosh Baruch Hu de te faire pousser ses ailes. Hachem, donne-moi les ailes qui m'aideront à prendre de la hauteur. Donne-moi les ailes qui m'aideront à m'élever vers toi. Eh bien, HaKadosh Baruch Hu nous donne ces ailes-là. Il nous donne ses forces. Et nous pouvons nous sauver très, très loin. L'homme, il est. La Betoula, donc, c'est un être faible. C'est un être faible. L'être humain est un être faible. Mais dès l'instant où il choisit de se maîtriser, où elle a choisi de se sauver de la faute, eh bien, elle a choisi de se contrôler. Eh bien, elle a eu le pouvoir de monter très haut, de s'élever très haut, dans les hauteurs spirituelles, de devenir même l'égale d'un ange, même plus qu'un ange, puisque l'ange, il est resté sur terre et elle s'est élevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu te maîtrises de quelque chose qui vient à toi, lorsque tu te retiens d'une avéra qui vient à toi, à ce moment-là, tu pries à Kadosh Baroukh Hou. C'est-à-dire, pour te retenir, il faut prier Dieu. Dieu, je vais succomber, aide-moi, aide-moi, donne-moi des ailes pour m'élever. Et tu te maîtrises et tu t'envoles très très loin. Tu redeviens pas celle que tu étais juste avant. Tu redeviens une autre personne, une bétoula, quelqu'un qui vient de naître. Avec toutes ses forces renouvelées, avec toute sa émouna renouvelée, avec une renaissance, waouh, d'un bébé. Parce que tu as choisi de te maîtriser, parce que tu as choisi de te contrôler. Ça, c'est la force de Elul, les filles. Il nous donne ce mois-là, il nous donne des ailes pour toute l'année, pour s'élever de plus en plus haut. Et ces ailes-là, elles nous aident à dévoiler des forces inconnues jusqu'à là, que nous ne soupçonnions pas jusqu'à là. Ça, c'est la force du mois de Elul. Maintenant, je voudrais vous parler d'un point très important concernant Rosh Hashanah. Ça, c'était Elul. Maintenant, la suite, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a l'habitude, et on va parler de trois femmes, trois précieuses femmes. Mais d'abord, je voudrais... Oui. Donc, la Gemara Rosh Hashanah, voilà. La Gemara Rosh Hashanah, la Mamash, on va étudier quelque chose de très profond. D'après la Gemara, j'ai pris ce cours du Rav Rosenbaum, Baruch Rosenbaum. C'est sa Torah à lui. Nous sommes dans les donc on est maintenant dans les dernières heures avant Rosh Hashanah et dans la Gemara et on va apprendre ce que dit les cinq choses qui ont eu lieu à Rosh Hashanah. La Gemara Rosh Hashanah, elle dit à la Daftet Amoud Bet, elle dit qu'il y a eu cinq choses qui ont eu lieu à Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah Nifkeda Sarah, Rosh Hashanah Nifkeda Rachel, Rosh Hashanah Nifkeda Chana. Rosh Hashanah Yatsa Yosef Mibet Asurim et Rosh Hashanah Paska Avoda Avotenu Mitzrayim. Les cinq choses qui sont arrivées à Rosh Hashanah, c'est que d'abord Sarah elle est exaucée, Rachel a été exaucée, Chana a été exaucée, Yosef est sorti de prison, après ses 12 ans en prison c'était Rosh Hashanah, et l'exil d'Égypte après 210 ans, quel est le début, quel est le moment où il s'est arrêté? Rosh Hashanah. Ok, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Daf tet amud bet. Maintenant, tout celui qui lit cette Gemara, il se pose la question tellement importante de savoir pourquoi on cite ces trois femmes-là, Sarah, Rachel et Chana. Qu'est-ce qu'elles ont été, de quoi elles ont été exaucées? Et les Chachamim répondent, elles ont été exaucées de leur stérilité. Elles sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Sarah, Rachel et Chana. Pas à la même époque, mais ces trois femmes qui sont tombées enceintes, qui ont été exaucées de leur stérilité, qui a donc pris fin à Rosh Hashanah. Et les Chachamim nous posent la question. Je ne comprends pas. Ça a été tellement important, cette grossesse de Sarah, de Rachel et de Chana, que la Torah et la Haftara ne parlent que d'elles. La Torah du premier jour de Rosh Hashanah, c'est la naissance, la tefila de Sarah qui a été exaucée, la naissance de Yitzhak. La Haftara du premier jour, c'est Chana qui a été exaucée, la naissance de Shmuel. La Torah du deuxième jour, c'est la Akedat Yitzhak. Et la Haftara, ça va concerner aussi Sarah, mais vous allez voir dans quel sens. Et la Haftara du deuxième jour, c'est Rachel Imenu. Tellement c'est important ça! Mais Rosh Hashanah c'est un tané tokef! Rosh Hashanah dans certaines communautés, surtout Ashkenaz, même Chabad, on lit un tané tokef! Le paragraphe, l'histoire, enfin je veux dire le texte qu'a composé Rabbi Amnon, qui était un grand Gaon, qui a écrit un tané tokef, proclamant. Untane Tokev Gdushat Hayom, proclamons la puissante sainteté de ce jour-là. On craint ce jour-là. On exalte ta royauté, Akadosh Baruch Hu. Ton trône, il est établi avec bienveillance ce jour-là de Rosh Hashanah. Et après, suit ce passage-là, un passage qui est tellement émouvant, qui fait pleurer. Ube Rosh Hashanah Ikatevun, Ube Yom Tsom Kippur Ikatevun. À Rosh Hashanah, tout est écrit. Et Yom Kippour, tout est scellé. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est scellé? Kama Yibareun. Vechama Yibareun. Combien que Dieu en préserve? Personne. Combien disparaîtront et combien seront créés? Qui n'arrivera pas à la... Qui arrivera à la fin de son temps, qui lui est imparti, et qui le contraire? Qui mi rie mi 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 ba maim mi ba esh mi ba khirev ou mi ba khaya mi ba raav ou mi ba tsama mi ba raash ou mi ba magefa mi ba khanika ou mi maskila? Toutes ces questions-là, elles sont répondues dans tes grands livres saints. Akadosh Baruch Hu, le jour de Yom Kippour, c'est scellé. Les réponses, elles seront scellées. C'est ça, Rosh Hashanah. C'est ça, Rosh Hashanah. Mais la tchouva, la tchila, la tzedaka, elle fait, elle adoucit tous les décrets. C'est ça, Rosh Hashanah. Donc, on aurait pu penser, les rabbins me posent la question, on aurait pu penser que les lectures du jour de Rosh Hashanah, c'est pas la lecture de trois femmes. Ok, elles ont été exaucées, Baruch HaShem. Super, elles ont eu un enfant qu'elles désiraient depuis des années et des années, Baruch HaShem. Mais Rosh Hashanah, c'est un autre niveau. Quel rapport maintenant avec Sarah, Hannah et Rachel? Quel rapport maintenant avec leur histoire personnelle? Leur histoire de stérilité personnelle? Beaucoup d'autres femmes ont été aussi exaucées à Rosh Hashanah. Et pour, comme Chava, par exemple. Et elles ne sont pas rapportées. Mais pourquoi une histoire personnelle comme ça de femmes? De Imahot, certes, des femmes, waouh, les matriarches, les exemples de notre peuple juif. Mais ce sont des histoires personnelles. Elles avaient une stérilité qui concernait leur couple. Elles ont un bébé qui finalement concernait aussi leur couple, leur famille. À Rosh Hashanah, on est dans une autre dimension. Dans la dimension de Mi'iriyé ou Mi'amout. Qui va être inscrit dans le livre de la vie ou le Chas V'Shalom, le contraire? Pourquoi on lit ça à Rosh Hashanah? Où on aurait pu imaginer quoi, en lecture logique de Rosh Hashanah, qui aurait été la création du monde, Bereshit bara Elokim, et hashamayim v'et haaretz, puisque le monde a été créé le Chafeh Elul, demain, c'est l'anniversaire du monde, et que 6 jours après, l'homme a été créé, Alef Tishri, le premier Rosh Hashanah de l'histoire, Alef Tishri, c'est la création de l'homme, c'est ça qu'on aurait dû lire. N'est-ce pas qu'il est écrit dans toute la Gemara Menachot, combien les détails de toute la création du monde, combien la Gemara Menachot, elle va détailler tout ce que HaKadosh Baruch Hu a fait les 6 dernières heures du 6e jour. La première heure, où j'ai écrit la première heure. La première heure, il a demandé à la Midat Hadin et il voulait créer le monde Alpi Midat Hadin. Et par la suite, quand il a créé Adam Harishon, Yud Kevavke est venu, c'est-à-dire la Midat Harachamim se sont associés à la Midat Hadin. Et par la suite, la deuxième heure, il a demandé conseil aux anges. Est-ce que je crée l'homme? D'accord, on a assez Adam, c'est tout ce qui est là-bas développé. Troisième heure, il a pris la poussière de chaque pays, de chaque coin du monde pour créer l'homme. De la tête, il a pris la poussière du Har HaMoria pour créer sa tête. Vous vous rendez compte un peu? Du Har HaMoria, pour créer le corps, il a pris la poussière, le sable qui vient de tous les pays du monde. Pourquoi? Pourquoi pas tout du Har HaMoria? Pour que l'homme, une fois qu'il vient à mourir, il puisse être enterré dans tous les pays du monde. Aucun endroit de la terre ne pourra le rejeter. Parce que il a été créé à partir de chaque poussière de la terre. Comme ça dit la Gemara Menachot. Après, il a pris l'eau, il a mélangé. Il a pris de l'eau douce, il a mélangé, il a créé Adam. Pourquoi de l'eau douce? Il n'y a que de l'eau douce qui accepte les corps. Chas v'shalom, quelqu'un qui se noie dans le Kinneret, qui est une eau douce, il reste là-bas jusqu'à ce qu'on le trouve lui-même. Le Rav Rosanou lui a dit qu'il a un ami de Bachur Yeshiva qui a été noyé dans le Kinneret depuis 42 ans, il n'a pas été retrouvé. 42 ans. C'est avec de l'eau de pluie qu'il a créé Adam Harishon. C'est avec de la rosée qu'il a créé Adam Harishon. Akadosh Baruch Hu, il a mélangé les poussières et cette eau-là douce et il a créé Adam Harishon. Ok. Et pas les eaux, pas des autres eaux, des eaux salées. Les eaux salées, non. Si bien qu'un homme qui, chas v'shalom, s'est noyé, il est rejeté par la mer. La mer, elle dit, j'en veux pas. Je veux pas de toi. T'as pas été créé à partir de moi, tu dois sortir. Quatrième heure, Akadosh Baruch Hu, il a mélangé les deux. Cinquième heure, il a formé Adam Harishon. Sixième heure, il en a fait un golem. Et la septième heure, il lui a insufflé à la neshama. Ça, c'est Adam Arichon, ça, c'est créer le premier Tichri, ça, c'est le jour anniversaire, voilà ce qui aurait été logique de lire à Rosh Hashanah. Non. Non, disent les Chachamim. Vous allez lire l'histoire des trois femmes, de ces trois femmes-là. Sarah, Hannah et Rachel. Et on va apprendre à Matzrat Hashem pourquoi. Vous allez voir comme c'est beau. Et ici, je vous avertirai, mais en tous les cas, je fais un mélange avec une sicha du Rabbi aussi extrêmement puissante, magnifique et profonde. Quand j'arriverai, je vous le dirai. Donc, pourquoi parler de ces trois femmes-là et non pas de la création du monde? Pourquoi parler de ces trois femmes-là et non pas de la Akedat Yitzhak? Tout Rosh Hashanah tourne autour de la Akedat Yitzhak. Tout Rosh Hashanah, le chauffard, c'est la Akedat Yitzhak. Ça s'est passé le jour de Rosh Hashanah. Alors oui, on en parle dans la Kriyat HaTorah du deuxième jour, mais c'est toujours, ce n'est pas, ça reste quand même noyé, on va dire, la Akedat Yitzhak, noyé dans l'histoire de ces trois femmes-là. La Akedat Yitzhak, ça s'est passé à Rosh Hashanah. N'est-ce pas qu'il est dit dans la Akedah, chez Neymar, Asher Yamer Hayom Be'a Asher Mira'e. Asher Yéhamer Hayom, Hayom dit le Zohar, chaque fois qu'il est écrit Hayom, Zou Rosh Hashanah. Donc, la Akedat Yitzhak s'est en passé Rosh Hashanah, alors on la lit Rosh Hashanah. Tout Rosh Hashanah tourne autour de ce mérite atzoum, de ce sroute extraordinaire que Avraham Avinu nous a légué. La mitzvah de Tashlich, le Maharil il explique que la mitzvah de Tashlich, elle est aussi en rapport avec la Akedah. Quel rapport? Quand Avraham Avinu et Yitzhak sont partis pour faire la Akedah, le Satan, il a mis, donc de Beersheba, il est parti à Aram Moria, d'accord? Du sud, il est monté au milieu de Retzrael, et vers l'ouest. Et le Satan, il a mis un Nahar, un fleuve, qui a fait, pour empêcher que la Akedah se réalise, qui a fait qu'Avraham Avinu et Yitzhak ont dû marcher, marcher, marcher dans ce fleuve, jusqu'à ce que le fleuve atteigne le cou d'Avraham. Et Avraham a dit, Oshieni, Akadosh Baruch Hu, Kibaou Madnafesh, Kibaou Maim Madnafesh, les eaux, elles sont arrivées jusqu'à mon âme, je vais mourir. Et là, le Satan s'est relevé. Hachem, il a dit, oh, Satan, stop, tu t'arrêtes. Donc on voit que, et on le lit à Rosh Hashanah. Et plus que ça, comment c'est lié à Rosh Hashanah, la Akedat Yitzhak? C'est par le chauffard. Tous les chauffarots sont cachers. Toutes les animaux, les cornes sont cachères. Sauf celle de la vache, parce que la vache, ça rappelle le Chetah Egel. Ok. Mais pourquoi on prend que, du coup, le chauffard que du bélier? Pour rappeler le Chetah Egel. Pardon, pour rappeler la Akedat Yitzhak. Parce que de la Akedat Yitzhak, à la place de Yitzhak, Avraham, il a vu Haïl. Basbar Kornav, comment on appelle ça, un bélier qui a enchevêtré ses cornes dans les broussailles, dans les arbres, et il a sacrifié ce bélier-là à la place de Yitzhak. Donc on prend uniquement une corne de bélier pour rappeler la Akedat Yitzhak. Donc, et Akadosh Baruch Hu, il dit de ça, Akadosh Baruch Hu amar tikuba kodesh ha'il kedel shizkor la Akedat Yitzhak u'ma'ale ani keilu akadat tzmechem lefanai. Et quand vous sonnerez le chauffard dans une corne de bélier, je considérerai moi, je me souviendrai, je considérerai que vous avez vous-même akadat tzmechem, vous vous êtes vous-même donné en corban. Alors, c'est pour ça qu'on prend une corne de ha'il. Donc, on voit que Rosh Hashanah, il tourne autour de la Akedat Yitzhak aussi. Malchouyot, Shofarot, Zichronot, tout ça, ça rappelle la Akedat Yitzhak. Tout ça, ça rappelle ce mérite Atsum. Rosh Hashanah, il est entouré de ce mérite-là. Et il est intéressant de voir comment le Baal Tokea. Alors, je vous dis quelque chose de très important ici qui me vient à l'esprit, c'est pas pour rien. Vous savez que le Rabbi, c'est la Chassidoute qui explique. Il faut essayer de voir, et nous, Baruch HaShem, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais à chaque fois à Créteil, j'essaye de le faire, de voir le visage du Baal Tokea après les Tkiyot. C'est pour ça que chez Chabad, chez nous, le Baal Tokea, celui qui sonne, il a l'habitude de se retourner pour que tout le monde le voit. Il est rouge. Il est rouge de lumière. Après les tkiyot, le Baal Tokea, il a une lumière spéciale sur son visage qu'il faut contempler. Quand il sonne, le Baal Tokea, chez nous, ici à Créteil, c'est le chaliach du Rabbi, Rav Meloul, que Dieu lui donne une longue vie, une bonne santé, eh bien, il sonne avec le visage couvert de son talit. Et une fois, toutes les sonneries, et une fois qu'il termine, il relève son talit et il regarde toute la choule. Et heureux celui qui regarde ce visage. Parce qu'il est plein de lumière. N'est-ce pas qu'il est dit, parce que le shofar, il donne la lumière. N'est-ce pas qu'il est dit dans le Tehillim, Samechet. Ashriam yodea troa, ki be'or panecha ye'alechun. Ashriam yodea troa, heureux le peuple qui connaît la sonnerie, ki be'or panecha ye'alechun, car il marche avec la lumière. Il avance avec la lumière. La lumière de quoi? De la Troie. Des Troies, du chauffard. Donc, si vous avez l'occasion, essayez de regarder le visage du Baal Tokea une fois qu'il a sonné. Où que vous soyez. Et si vous êtes à, voilà, si vous êtes à la choule, bien évidemment. Peut-être qu'à la maison aussi, en fait, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, c'est comme ça. Et le Baal Tokea, remarquez, moi, je le remarque chaque année. Et cette année, voilà, bon, c'est ça ce que j'ai appris. Et c'est ça ce que je veux participer. Et je veux partager avec vous. Et je vais vous donner les références de ce que j'ai appris. Le Baal Tokea, quand il amène plusieurs chauffarotes devant lui, mais ils sont jamais découverts, ils sont toujours dans des poches. Il apporte des chauffarotes et il les met, il les couvre. Donc pourquoi les chauffards doivent être couverts? Qui est-ce qui nous donne la réponse? C'est le Pérouche Elef le Maté. Elef le Maté, c'est un Pérouche qui appartient au livre Maté Ephraim. Et là-bas, il dit que pendant la Akedat Yitzhak, bon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi j'ai remarqué en tous les cas que il les laisse toujours dans un sac en velours, le chauffard. Quand il prend un, il remet l'autre, mais jamais découvert. Et le Pérouche, Elef le Maté, il va expliquer que quand Avraham Avinu, il est arrivé à l'endroit de la Keda, au Har Amoria, Vaïven Avraham et Amisbeach. Avraham, il avait 137 ans. Et à 137 ans, il a construit lui-même le Misbeach de pierre. Pierre par pierre, il les a portés. Mais Avraham Avinu, je comprends pas, tu as Yitzhak devant toi. Il a 37 ans. C'est pas un petit garçon. C'est un gaillard. Pourquoi il t'a pas aidé? Pourquoi Bichlal, c'est pas lui qui a construit le Mizbéar? Avraham Avinu, il a apporté de Beersheva le bois. Et sur place, il a construit le Mizbéar lui-même. Pourquoi il a apporté de Beersheva et pas il a pris de Har Moria? Parce que il avait peur d'une chose. Que le bois de Yerushalayim, il soit déjà avec des vers. Pourquoi? Parce qu'à partir de Tou Béav, on a appris déjà, rappelez-vous, le 15 Av, on arrête de couper du bois parce qu'à partir de ce moment-là, le bois, il devient infesté. Comme la chaleur diminue, le soleil baisse, il y a plus de vers dans le bois. Et donc, il a voulu avoir un bois pour le Mizbéar, des arbres nickel et épurés de tout vers. Donc, il a apporté lui-même le bois comment on appelle ça, de Beersheva. Mais le Mizbéar, il l'a construit sur place. Et qui est-ce qui l'a construit? Lui-même, Avraham Avinu, à 137 ans. Et pourquoi? Pourquoi il a cherché à le construire lui-même? Parce que il a dit à Yitzhak, je ne te permets pas de toucher aux pierres. Anilo marcha. Anilo marché. La sept levenim. Je ne te permets pas de porter les pierres. Ne touche à aucune pierre, dit Avraham Avinu. Et pourquoi dit c'est le Rambam qui le dit. Il dit parce que Avraham dit à Yitzhak, tu te rappelles ce qui s'est passé sur la route, le fleuve? Tu te rappelles comment on a été empêché par le Satan? Il s'est transformé en fleuve pour nous noyer. Bon, Hachem, on est arrivé ici. On est arrivé là. Et maintenant, j'arrive. On va faire la Akeda. Si tu m'aides à porter une pierre, peut-être qu'elle va être lourde. Et peut-être qu'il va te la faire tomber sur les pieds. Et peut-être que donc, tu seras infirme. Tu auras un défaut et le corban ne sera pas parfait. Donc, reste à ta place. Reste ici. Et les Chachamim expliquent qu'Avraham Avinu, il a mis Yitzhak dans une boîte. Enfin, pas une boîte comme on peut imaginer, mais un endroit complètement fermé. Préservé comme un korban qui doit rester complètement shlamim. Complet. Et donc, de peur qu'il reçoive un défaut des pierres qu'il porterait pour faire le misbéar. Et donc, c'est la raison pour laquelle dit Elef le Maté que les chofarot qui rappellent la Akedat Yitzhak doivent être couverts le moment où on sonne le chofar pour appeler la Akedah. De la même manière que Yitzhak Avinu lui-même qui est appelé Olat Tmima, un corban parfait qui n'a pas été endommagé en aucun coin de son corps, lui-même a été caché au moment de la Akedah. Nous, on cache les chofarot afin de réveiller le Sroout Atsum, le mérite puissant qu'Avraham Avinu, il a caché Yitzhak afin de réaliser la Akeda Hayom, aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah. C'est pour réveiller encore la Rachmanout pour nous, sur nous. C'est pour ça qu'on cache le chauffard. Ok, maintenant on n'a toujours pas répondu à la question. Pourquoi Hana? Pourquoi Rachel? Pourquoi Sarah? Tout ça, c'est des mérites énormes. Pourquoi on lit le mérite de l'histoire de trois femmes qui ont eu trois problèmes personnels équivalents, c'est la stérilité, mais qui les concernaient qu'elles-mêmes? Surtout que nous voyons, on appuie encore un peu la question et après on va y répondre. Surtout que nous voyons que dans l'Haftara de Rachel, l'Haftara du deuxième jour, on parle, enfin, déjà dans le Marsor, on parle de Haben Yakirli Ephraim. Ephraim, c'est le petit-fils de Rachel Imenu. On parle, on est défini, nous, le peuple juif, comme le fils précieux d'Akadosh Baruch Hu, qui est comme Ephraim. Ephraim, c'est le petit-fils de Rachel. Rachel, elle est inhérente à toutes les histoires de la Torah. Yosef HaTzadik, la même chose. Je ne peux pas trop m'allonger sur le... Parce que déjà, il va être long. Il est long, je veux dire. Mais Yosef a un lien direct avec Rosh Hashanah. Il est sorti de prison à Rosh Hashanah. Il a été élu roi à Rosh Hashanah, vice-roi à Rosh Hashanah. Et il a été le premier Melech du Ham Israël aussi. Donc, à Rosh Hashanah, on lit cette haftara-là. La haftara de Rachel Imenu, où on dit là-bas, min i kolech mi bechi ve enayich mi dim'a ki yesh sachar lif'u la terre ve tikva la chariter ve shavu banim likvulam. Akadosh Baruch Hu dit à Rachel, Rachel, calme-toi, arrête de pleurer. On le connaît bien ce pasouk. Essuie tes larmes de tes yeux, car il y a une récompense à tes actions et un espoir à tous tes retards, et tes enfants retourneront à Tzion. Mais quel rapport avec Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu? Quel rapport maintenant? On aurait pu, on lit cette phrase-là, ce passouk-là, ce passage-là, Tisha B'Av. Dans l'après-midi Tisha B'Av, déjà, on le comprend. Il y aura une grande consolation. Le Beth Amikdash va être reconstruit, mais s'il y a Tanishmaya. Mais quel rapport cette histoire avec Rosh Hashanah? Le Sfat Emet, il écrit la chose suivante. Pessah, Keneged Avraham Avinu. Shavuot, Keneged Yitzhak Avinu. Sukkot, Keneged Yaakov Avinu. Rosh Hashanah, Keneged Yosef HaTzadik. Qui est la mère de Yosef? Rachel. Rachel, elle a été exaucée à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il est directement lié à Rachel et à Yosef. Rosh Hashanah, on rappelle ça. On rappelle Rachel. Et donc, c'est la raison, on va dire, extérieure pour laquelle on parle de Rachel à Rosh Hashanah. Alors maintenant, on va répondre. Pourquoi les lectures de la Torah, les haftarot de Rosh Hashanah, du premier et du deuxième jour, sont en lien avec une histoire de trois femmes, Sarah, Chana et Rachel? La réponse est la suivante. Il n'y a pas un seul juif sur terre qui n'a pas de difficultés, ou qui n'a pas un malheur, ou qui n'a pas une épreuve, Chas v'shalom. Le Ran, il explique, il dit, le monde, il ressemble à un navet atlaot. Une splendeur, une beauté malheureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec des malheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde à l'extérieur, il est beau. D'accord? Tu vois une personne, elle est bien habillée, elle est belle, elle se pavane, etc. Mais tu connais pas sa vie. À l'intérieur, elle souffre. Tu vois une personne qui est en train de conduire une belle voiture et que Dieu en préserve, il est handicapé. Et voilà. Tout le monde, c'est que l'extériorité qui est belle. Ça brille, il y a des feux d'artifice de partout. Mais chacun à l'intérieur de lui a ses souffrances personnelles. Chacun. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de souffrance personnelle. Ça n'existe pas. Et si elle n'en a pas, c'est grave. Comme le serpent. Il a été maudit. Et quelle est la bénédiction qu'il a reçue? C'est qu'il trouvera de la nourriture partout où il ira. Il aura la nourriture dans sa bouche tout le temps. Tout le temps, il aura l'impression de manger. Tout le temps. Alors, en quoi c'est une malédiction, disent les Chachamim? Eh bien, parce que du fait qu'il est tout le temps à manger dans sa bouche, il va jamais adresser des paroles à Dieu. Il va jamais adresser des tfilotes à Dieu. Il va jamais lever les yeux vers Dieu. Et ça, c'est la pire des situations. Où Dieu lui dit au serpent, même de tes tfilotes, je veux pas. Je te donne tout comme ça, je t'entends pas. Que Dieu nous en préserve. Eh bien, il n'y a pas une personne qui n'a pas de souffrance. Et c'est exactement là que se trouve la réponse. C'est exactement là que se trouve la réponse à l'histoire de ces trois femmes. Akadosh Baruch Hu, il est Avinu et il est Malkenu. Il y a des personnes qui désespèrent de demander. Elles ne veulent plus demander parce qu'elles n'y croient plus. Elles sont à la panime et elles ont baissé les bras. Et eh bien, chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas, une chose pareille, de dire j'ai baissé les bras, je crois plus en toi. Haine d'avoir casé, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous et il est Malkenu. Il est notre père qui veut nous donner, tel un père qui veut donner un fils, et il est notre roi qui peut nous donner. Akadosh Baruch Hu, il peut tout nous donner, il peut tout faire, il peut tout réaliser pour toi, même si tu te dis c'est fini, je ne crois plus en ma vie, je ne crois plus en moi, je ne crois plus en cet homme, je ne crois plus en cet enfant, je ne crois plus à ce travail, je ne crois plus en rien. Dieu, il peut tout faire. Et pour te prouver que Dieu peut tout faire, à Rosh Hashanah, on lit l'histoire de Sarah, l'histoire de Hannah, et l'histoire de Rachel, pour qui Dieu, face à des situations désespérées, a remué toutes les limites de la nature pour leur donner ce qu'elles avaient besoin, ce qu'elles demandaient. Parce qu'elles n'ont pas baissé les bras. Elles n'ont pas été découragées par quoi que ce soit. Sarah, comme c'est dit la Gemara, Yebamot, Lo hayala rechem, elle n'avait même pas d'utérus. Elle pouvait croire en un enfant à 80, à 100 ans. Sarah, elle pouvait croire à un enfant avec un corps pareil. Elle n'avait pas d'utérus bichlal. Et quand l'ange est venu lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant, à la seconde, elle a eu ses règles. Et les règles, elles sont arrivées. Tout le système hormonal s'est remis en marche, chose qu'elle n'avait pas avant. Est-ce qu'une femme, elle peut porter un enfant sans un utérus qui grossit au fur et à mesure que l'enfant grossit? Est-ce qu'il est possible ça? Ça n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu, l'impossible. Viens, les Chachamim, et te dit Rosh Hashanah. Ok, c'est tout ce que tu veux. C'est waouh, Bereshit bara Elokim, Atashamim v'Taaretz, Briyat Adam, tout ce que tu veux. Mais c'est surtout de croire en lui jusqu'à l'impossible. Regarde Sarah. Elle a eu un bébé, malgré que Alpiteva, c'était impossible. Elle a eu un bébé à un âge très, très, très âgé. Et pourquoi elle a eu un bébé? Parce qu'elle a cru en Dieu jusqu'à la dernière minute. Même si elle avait ri quand elle a entendu l'annonce, c'était un rire de toutes mes tefilotes ont été exaucées. Finalement, toutes mes tefilotes ont été exaucées. Zachenu lechaim, melech hafetz bachaim, kotvenu besefer hachaim. Tant que tu es bachaim, tant que tu es en vie, tant que tu es en vie, Dieu te donne tout ce qu'il y a de nouveau, une renaissance. Tant que tu as la vie en toi, alors tu peux renaître. Et tout peut renaître en toi. Et l'espoir, et tes demandes qui vont être exaucées d'une manière tangible. Ne perds pas une goutte d'espoir, te dit Dieu. Ne perds pas une goutte d'espoir en moi, qu'avait à la Shem, ça n'existe pas, le contraire. Espère en moi. Tiens ce cave dans tes mains fermement, tiens-le. Et crois en moi jusqu'à la dernière goutte de ta vie. Ça, c'est Sarah. Viens, Hana. Viens, Hana. Mariée 19 ans avec Elkana, et en qui elle croyait, en termes de tfilot. Elkana, c'était le tzadikado. Et elle était sûre que son mari priait. Et il priait. Jusqu'au moment où ils sont montés au Mishkan Shiloh. Et il a offert le korban shlamim. Et Hana n'a plus voulu manger. Elle était à côté de Penina, qui l'exaspérait avec ses 10 enfants, qui elle en 10 ans et 10 enfants, parce qu'elle était mariée 10 ans avec Elkana. Au bout de 10 ans, elle a dit, je vais faire comme Sarah. Je vais rentrer. Comme Sarah et comme Rachel. Je vais rentrer une rivale. Marie-toi avec Pénina. Et peut-être que Dieu va m'exaucer. Et 10 ans après, Pénina a eu 10 enfants. Donc ça faisait presque 20 ans que Hana était mariée et elle toujours rien. Et Pénina exaspérée. L'exaspérée, disent les Chachamim, elle la faisait souffrir en lui disant, tu n'as pas de choses à faire avec tes enfants, tu n'as pas de linge à repasser, tu n'as pas d'affaires scolaires à acheter, tu n'as pas d'enfants au GAN à chercher, tu n'as rien à faire de tes journées. Comment est-ce possible? Ok, sa motivation première, c'était de lui faire lever les yeux au ciel. Ok, elle a fait ça pour l'obliger à prier, pour la réveiller, prie, prie pour que tu en aies. Mais malheureusement, ça a encore plus fait souffrir Rana. Malheureusement. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté la souffrance, même si elle avait des motivations positives. Elle n'a pas accepté la souffrance que Pélina a donnée à Hana. Et chaque année, chaque fois qu'un enfant naissait, chez Hana, deux mouraient chez Pélina, que Dieu nous en préserve. Jusqu'à ce que Hana ait dû prier pour les deux derniers. Hana a eu cinq enfants en tout. Et les deux derniers qui restaient à Pélina se sont ralliés avec le groupe de Hana. Tout ce que je vous dis, vous le lisez dans le texte de Shmuel Aleph Perek Aleph. Et c'est ce qu'on lit. La Haftara du premier jour, en français. Lisez-le même en français. Elle est trop belle, cette histoire de Hana. Perek Aleph, Shmuel Aleph, Perek Aleph. Shmuel 1, Perek 1. Et quand Hana a vu, avant d'avoir son premier bébé, quand Hana a vu que Elkana a arrêté de croire, elle n'avait plus d'espoir qu'elle ait un enfant. Alors non, pardon, j'ai oublié un détail, c'est que quand ils étaient arrivés là-bas au Mishkan Shiloh, ils voulaient manger le korban. Elle n'a pas voulu manger. Elle avait Hana et Penina, elle avait Penina et ses 10 enfants qui étaient face à elle. Elle avait son mari d'un côté, elle seule de l'autre. Et elle s'est mise à pleurer. La melotifli, vela melotifki. Pourquoi tu ne veux pas manger? Pourquoi tu pleures? La metifki, Hana. Pourquoi tu pleures? La melotifli. Pourquoi tu ne veux pas manger, Hana? Et il lui a dit la phrase qui a fait que Hana s'est levée. Anochi tov lecha me'es harabanim. Ne suis-je pas mieux, plus important que Pénina à tes yeux, que Pénina et ses 10 enfants? Notre amour, il vaut plus que tout. Notre attachement vaut plus que tout. Je l'ai prise parce que tu m'as demandé de la prendre. Mais c'est toi et moi qui compte. Et la Hana a compris quelque chose. Dans les lignes, entre les lignes, vous savez comment une femme, elle sait lire entre les lignes. Elle a compris une chose. Que Elkana lui disait, ne compte plus sur moi. Ne compte plus sur moi. Je vais. Ça y est, accepte. Tu n'as pas d'enfant, accepte. C'est pas grave. Tu as un mari qui t'aime énormément. On peut pas tout avoir dans la vie. Ben si, on peut tout avoir dans la vie. Elkana, on peut tout avoir. Et Hana nous l'a prouvé. Elle s'est levée. Je fais le texte. Vatakom Hana. Vatakom Hana. Achare achlab shilo, vachare chateau. Ve Eli Hakohen yoshev al kiseh al mezuzoteh al Hashem. Vehi marat nefesh. Vehi marat nafesh. Vetitpalel al Hashem. Ubacho tifke. Et le pasouk Yud et Yud Aleph, 10 et 11, vont nous donner tout le seder de la tfila que Hana a adressé à Kadosh Baruch Hu, au Mishkan Shiloh. C'était avant le Bet HaMikdash, au Mishkan Shiloh. Et Eli avec Aïn, c'était le Kohen de l'époque. Elle a adressé là-bas une tfila. Et quand elle a vu qu'elle pouvait plus compter sur son mari, Vatakom Hana, Hana elle s'est levée. Quoi? Toi tu désespères. Mon mari, moi je ne désespère pas. Moi j'y crois. Je croirai jusqu'à la fin de ma vie en ce que Dieu est capable de me donner. Et il me le donnera. C'est ça une femme. Vatakom Hana. Lève-toi de tout ce qui te fait tirer vers le bas. Lève-toi de toutes les fois où tu es restée assise. Eicha yashva, comment peux-tu rester assise, dit David, dit Yirmiyahu. Comment peux-tu rester assise de tout ce que Dieu t'a pas donné? Lève-toi et prends ton problème en main. Prie à Kadosh Baruch Hu. Arrête de compter sur les autres pour te solutionner les choses. Ils peuvent t'aider, certes, mais pas t'apporter la solution. La solution, elle est en toi et elle s'appelle le Ratson. Je veux m'en sortir et je décide de m'en sortir. Hana a décidé de s'en sortir. Elle s'est levée. Et elle a pris sa vie en main. Elle est partie dans le Mishkan Shiloh. C'est la première fois qu'une femme s'approchait du Mishkan pour prier. C'est la première fois. Et Eli a cru qu'elle était saoule. Chikora? Non, non. Non, mon maître. Je ne suis pas Chikora. Non, mon maître. Je ne suis pas saoule. Non, elle lui a dit, Lo Adoni, Ishak Shat Ruach. Je suis une femme qui souffre, qui est saoule de souffrance, qui est saoule de blessures et de déchirures intérieures, oui. Veyayin vesecha, lo shatiti. Mais saoule de liqueur, je n'ai pas bu. Et là, Élie l'a bénie et elle est revenue avec un bébé. Hana, quel âge avais-tu quand tu as enfanté de Shmuel? 130 ans. 130 ans, nous disent les Chachamim. Elle avait 130 ans, dit le Midrash Talpiot, à la naissance de son fils Shmuel. Maintenant, Qui aurait pu penser qu'une femme à 130 ans va prier? Qui peut dire, j'y crois encore? Hannah, elle s'est levée parce qu'elle a dit, il n'y a pas, Dieu, tu me donnes. Et qu'est-ce qui a fait flancher à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, pardon Dieu, du mot que j'utilise? Qu'est-ce qui l'a fait fondre? Qu'est-ce qui a fait que Hannah lui a pris la main, lui a dit, tu me donnes maintenant? Et Dieu lui a donné, il n'avait plus le choix. Et ça, c'est le rabbi qui nous lançait dans une sikha. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Hachem, je ne veux pas un enfant pour moi. Je veux pas un enfant pour qu'on me voit avec la yo-yo et la douna et et les habits de dernière marque et ça et ça et ça ou pour avoir telle prime, etc. Chazvishalom. Je veux un enfant pour toi. Vati dor neder. Elle en a fait le vœu. Et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem Tzevakot. Rappelle-toi, Dieu, c'est Hana la première qui a appelé Dieu, Dieu des armées. Rappelle-toi de ta servante et donne-lui, Dieu des armées, des âmes. Tu as sous toi toutes les âmes. Tu peux pas me donner une âme, mais moi, cette âme que tu vas me donner, je vais te la rendre. Je vais en faire le juif que tu attends. Je veux qu'il grandisse dans Torah et Mitzvot. Je vais te le ramener ici, à Shiloh. Et il va grandir avec Élie. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Hana a montré à Kadosh Baruch Hu qu'elle ne veut pas le bien matériel pour elle. Elle les veut pour en faire la gloire de Dieu sur terre. Quand tu demandes à Dieu des choses matérielles, la parnassa, la voiture, la maison, les enfants, ce que tu veux, le travail, demande-lui avec sincérité que tout ce que tu vas l'utiliser, c'est pour lui. La tzedaka, tu vas donner plus de tzedaka quand tu auras une grande parnassa. C'est certain, il faudra t'y tenir. Tu vas recevoir des invités quand tu auras une plus grande maison. Quand tu auras une belle voiture, tu pourras aller plus loin pour faire des mitzvot, prendre des gens avec toi et pour aller emmener tes enfants dans telle et telle école qui est plus loin, qui sera une école qui est une école plus de Torah et de mitzvot. Tout ce que le matériel que Dieu te donne, c'est pour le lui rendre, c'est-à-dire c'est pour le sanctifier sur terre. C'est pas pour te pavaner. C'est ce que Hana nous a appris et nous dit le Rabbi, c'était ça la force de Hana. Ça, ce qui a fait que Dieu ait accepté. Non seulement cette fille-là, elle a renversé les lois de la nature parce qu'à 130 ans, on ne peut pas accoucher. Elle a remplacé les lois de la physique, mais également les lois qui sont établies au ciel, dit le Rabbi. Et qu'est-ce qui est établi au ciel que Hana a tout chamboulé? Jamais Akadosh Baruch Hu ne décide qu'un enfant est tzaddik. Jamais. Il lui décide tout quand il vient sur terre. Le malach comment on appelle ça? Le malach qui est responsable des neshamot, quand Dieu lui dit, amène-moi une neshama, Akadosh Baruch Hu lui décide tout. S'il est un homme, une femme, s'il va être riche, pauvre, en bonne santé, en mauvaise santé, etc., etc. Après, tout va dépendre selon les tfilot de Rosh Hashanah, bref. Mais il y a une chose qu'il ne décide jamais, c'est est-ce qu'il va être un tzaddik ou un rachat? Hana a dit à Kadosh Baruch Hu ce que tu as décidé dans le ciel. Pour moi, tu vas faire une exception à Kadosh Baruch Hu. Tu vas me donner un enfant de tzaddik. Il sera un tzaddik. Et à Kadosh Baruch Hu a dit d'accord, Hana. Cette fille-là était tellement forte que les Chachamim dans la Gemara Brachot nous disent que toute la tefila d'un juif, c'est-à-dire la Amida, elle est basée selon la tefila de Hana. Elle est inspirée selon la tefila d'une femme qui s'appelle Hana. Parce que Hana a non seulement avec ses mots, être de chair et de sang, avec ses mots dits sur terre, elle a changé les lois de la nature, mais elle a en plus changé les lois établies dans les cieux que personne n'arrive à changer. Une fille là, pareil. Bien sûr, tu en fais le récit à Rosh Hashanah. Bien sûr que tu en fais le récit à Rosh Hashanah, disent les Chachamim. C'est ça qu'il faut lire à Rosh Hashanah et pas Bereshit Bara Elohim. À quoi ça sert de savoir que Dieu a créé le monde et que aujourd'hui c'est le Adam Arishon, la naissance d'Adam Arishon Mazal Tov, mais ça me fait quoi à moi? Non, toi tu dois savoir le jour de Rosh Hashanah la force que Dieu t'a donnée dans ta bouche, dans ton cœur. Si tu pries Dieu de toutes tes forces et de tous tes mots et de toute ton âme, de tous tes pouvoirs, en te concentrant dans ta tefila, en demandant à Kadosh Baruch Hu avec pleurs et avec amertume, comme Hana a fait dans l'histoire, regardez l'histoire parce que je ne vais pas tout vous raconter, Mais c'est évident que Dieu te donnera. C'est évident. Il n'y a aucun doute. La preuve, c'est que les rabbis m'ont dit, c'est la lecture de Rosh Hashanah. C'est celle-là. C'est celle de Sarah, c'est celle de Hannah. Des histoires personnelles? Pas du tout. C'est des histoires personnelles, certes, mais qui ont un écho sur chacune de nous dans tout le peuple Israël. Chacune de nous. Et j'ai la preuve de ce que je vous dis. Comment Hannah, une femme a pris l'exemple de Hannah et elle a été exaucée. Je l'ai vue de mes yeux, une femme d'un de mes cours, ici à Créteil. De mes yeux, je l'ai vue. Pour les enfants. C'est pour ça qu'on nous lisons la Tfila de Hannah à Rosh Hashanah. Et Hannah et Shmuel, et 2 ans après, elle l'a ramenée à Shiloh. Les larmes qui lui coulaient de cet enfant, de se séparer de cet enfant, mais elle l'avait promis. Et elle l'a amenée avec un manteau qu'elle tricotait chaque année, elle tricotait ce manteau-là, qu'elle lui ramenait chaque année, tous les ans, elle lui a amené un manteau. Et toute la vie de Shmuel, on parle de ce manteau. Même après sa mort, on parle de ce manteau, de l'homme au manteau. Comme ça, on définit Shmuel. L'homme au manteau, l'homme au vêtement. C'est quoi le vêtement qui a grandi à chaque étape de la vie de cet enfant Shmuel? C'est les mots de la tuila de sa maman. C'est les mots de la tuila de sa maman qui l'ont accompagnée, qui l'ont protégée du froid de la vie, qui ont été pour lui un vêtement contre toutes les agressions extérieures. Heureux soit celui qui a été béni par sa mère. Heureux soit celui qui a été, dont la, per, la personne, l'enfant a été accompagné par les tuilotes de sa mère. Depuis petit jusqu'à sa mort, ça l'accompagnera. Jusqu'à 120 ans, il sera protégé par les mots des tuilotes de sa mère. Heureux soit-il, cet enfant-là. Ne te prive jamais de bénir ton enfant avant même qu'il naisse. Ne te prive jamais de le bénir lorsqu'il est dans ton ventre, comme Hannah le faisait. Elle tricotait déjà ce vêtement et elle bénissait cet enfant. Le vêtement d'un enfant spirituel, le vêtement physique d'un enfant, c'est son manteau, certes, contre le froid extérieur, mais le vêtement spirituel d'un enfant, contre les froids de la vie, les agressions, les tempêtes de la vie, ce sont les mots de la tfila de sa maman. Ne te prive jamais, jamais de bénir tes enfants. Tous les jours, devant la mezouza, en récitant des Tehillim, le vendredi soir, en allumant tes Nerot de Shabbat, après le Kiddush, quand tu veux, même toutes les fois, chaque fois. Ne te prive jamais de les bénir, en les nominant. Et Rosh Hashanah, on bénit les enfants qui sont présents et qui sont plus loin. Ça, c'est Hana. Les Chachamim m'ont dit quoi? Vous voulez lire Bereshit Bara Elokim? Rosh Hashanah peut tout transformer par les mots de ta bouche, de ta tfila. Regarde Sarah, regarde Hannah et viens Rachel. Rachel, elle a été exaucée. Elle a été exaucée. Elle a été exaucée par cette fille-là. Elle a été exaucée également quand elle est tombée enceinte d'une fille. Léa aussi est tombée enceinte pas loin. Et le Targum Yonatan il dit que Amda Léa n'était pas là. Léa, elle s'est tenue debout, elle a prié, elle a su par Ruach Kodesh qu'elle avait un garçon et que Rachel avait une fille. Elle s'est tenue debout, elle a prié devant Dieu et elle lui a dit à Kadosh Baruch Hu, si moi j'ai un garçon, j'en ai déjà 6, ça m'en fera 7. Chaque servante, elle a eu 2, ça fait 10, il restera un seul enfant pour ma sœur et c'est une fille. Tu ne peux pas faire ça. Par Ruach HaKodesh, elle a su qu'elle avait un garçon et que Rachel avait une fille. Yerushalmi, le Gemara Yerushalmi, elle dit que c'est Amda Rachel qui était là. C'est Rachel qui s'est tenue debout et qui a prié à Kadosh Baruch Hu, donne-moi un garçon que j'ai au moins 2 chevets, 2 tribus, pas moins que les servantes. Et pendant la nuit à Kadosh Baruch Hu, il a fait une permutation de fœtus et d'embryons. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui? À Rosh Hashanah, Rachel, elle a été exaucée. Léa, elle a eu une fille, Dina. Et Rachel a eu Yosef. Et par la suite, elle a eu Binyamin. Qui peut faire ce transfert-là? Même les plus grands hôpitaux en gynécologie ne peuvent pas faire ça. À Rosh Hashanah, ces 3 femmes, elles furent exaucées d'une manière illogique. Sarah, Hannah et Rachel, à 90 ans, Sarah, à 130 ans, Hannah, et que Dieu il a fait un transfert comme ça de bébé d'un ventre à l'autre, il a changé le sexe comme ça, qui peut faire ça chez Rachel? Tout est possible à Rosh Hashanah uniquement grâce à toi, grâce au mot de ta tefila, à la concentration que tu auras pendant la tefila et aux demandes que tu adresseras à Kadosh Baroukh. Et maintenant, je vais terminer avec le summum de toutes les tefilotes, qui est la mitzvah du jour, et ça va être celui qui va boucler la fin de ce cours. Pardon, il est long, pardon, écoutez-le en plusieurs fois si vous voulez, mais je ne peux pas me priver de vous dire tout ce que j'ai appris grâce à Dieu et grâce à vous, qui me donnait l'occasion de partager avec vous. Est-ce que vous avez déjà assisté au couronnement de la reine d'Angleterre? Enfin, en vidéo, parce que elle a quand même été couronnée en 1953, donc voilà. Eh ben, si vous voyez sur YouTube le couronnement de la reine d'Angleterre, par exemple, d'accord, je prends un exemple, c'est fanfare, tambour, trompette, défilé, carrosse. 3 millions de personnes, 3 millions de personnes présentes, des gardes, des défilés, des feux d'artifice, la couronne sur la tête. Waouh! Waouh, c'est quoi ce couronnement? C'est quoi ce couronnement? Et Akadosh Baruch Hu, ça c'est un roi matériel, un roi physique. Et Akadosh Baruch Hu vient le jour de Rosh Hashanah et nous dit: faites de moi votre roi. Comment? En sonnant le shofar. Pardon? Hachem, tu veux qu'on t'élit roi en sonnant le shofar? Cette corne de bélier qui donne un son qui est tellement ok pur, mais qui n'a aucun son, quoi. C'est un son de c'est un son simple. Il n'y a pas de fanfare, il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a rien. Comme ça, Hachem, tu veux qu'on t'élit? Comme ça, Dieu, tu veux qu'on t'élit? Regarde les rois sur terre, comment on les élit. Et toi, maître de l'univers, tu veux qu'on t'élit avec une simple corne de bélier? Et Akadosh Baruch Hu dit: je ne veux pas être le roi. Je ne veux pas être le roi du tambour, des trompettes, des fanfares et des défilés. Non, 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 non. Je veux être le roi des tkiyot, des trouot et des shvarim. Tkiya, c'est takua. C'est quand le son, il est, le son, il est. La traduction, c'est le comment on appelle ça? Être baissé au sol, être par terre de souffrance. Troua, c'est la sonnerie, c'est les sanglots. Shvarim, c'est les brisures, les shvurim. Akadosh Baruch Hu nous dit à chacune de nous et à chacun de nous: je suis pas le roi qui est spectaculaire, qui est élu d'une manière comme les rois sur terre ou les présidents de la République, qui cherchent juste une chose, c'est d'être applaudis, qui ne veulent entendre que de leur peuple, les applaudissements, qui ne veulent pas entendre les râleries, pas du tout. Non, dit Akadosh Baruch Hu, moi, je suis le roi de tes mots. Je veux t'écouter. Élis-moi, roi, avec le shofar, et raconte-moi, parle-moi. Dis-moi tes blessures, dis-moi tes douleurs, dis-moi tes souffrances, raconte-moi ce qui te fait mal. Dis-moi comment tu. Dis-moi. Dis-moi ce que tu souhaites, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce qui ne va pas. Je ne veux pas des applaudissements, je ne suis pas à l'image d'un roi humain, dit Hachem. Qui attache au mea kol shofar ou mazin kol troua. Comme ça on dit dans le Gmarzor. Car tu es celui qui écoute la voix du shofar et qui écoute la voix de la troua. Shomea, c'est merachok, c'est de loin. Qui écoute même les tfilotes de ceux qui du tréfond de l'âme, qui ne prononcent même pas. Et mazin, c'est mikarov, de ceux qui les prononcent. C'est ça le roi que je veux être vis-à-vis de toi. Je veux écouter tes doléances, les doléances de son peuple. Akadosh Baruch Hu écoute le jour de son couronnement. Qui est-ce qui fait ça? Le jour d'un couronnement du roi humain, c'est une fête. Du roi humain, d'un président humain, c'est une fête, c'est une fanfare, c'est un défilé. Mais elle vient te plaindre, va te plaindre à lui, tu verras où elle va atterrir ta lettre. Tu verras combien de temps il arrivera, il faudra pour qu'il la lise. Et tu verras Bichlal s'il te répondra. Et s'il te répond, c'est peut-être par le secrétaire du secrétaire du secrétaire du secrétaire. Non, le jour du couronnement d'Akadosh Baruch Hu, Dieu ne veut pas ça. Il n'est pas un roi humain. Il ne veut pas entendre que les applaudissements. On les lit, roi, en sonnant du shofar. Cette corne simple, défaite de toute décoration. avec l'expression d'un son simple, d'un son pur, qui est le son de l'âme, qui est le son des brisures de ton âme, qui est le son des brisures de ton cœur, des blessures de ton cœur, qui est le sanglot de ton âme. C'est cela que Dieu veut le jour de ton couronnement, de son couronnement, que tu lui déverses tout ce que tu as sur le cœur. Il veut que tu lui parles, que tu lui racontes, que tu lui dises tout. Même si tu dis c'est Dieu qui est, comment il sait pas, j'ai besoin de lui dire, il sait très bien tout ce que je pense. Non, 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 non. Fais l'effort de le prier, de lui formuler, de l'invoquer, de le supplier. Et il répondra à tes demandes. Chez Yavo, jusqu'à ce que Yeratson, que cette année, chacune de vous puisse avoir d'une manière tangible tout le bien qu'elle a besoin, tous les brachot qu'elle a besoin, de tout endroit où vous vous trouvez. Kakadosh Baruch Hu vous envoie la refoua shlema à tous les malades d'Israël, qu'ils nous inscrivent tous dans le livre de la shefa, de l'abondance, de la parnassa. Kakadosh Baruch Hu vous donne des shidouchim pour ceux qui ont besoin, qui donne des enfants pour celles qui en ont besoin. Zerachaya shel kayama, v'yashpia shefa bracha v'atzlacha, et qui nous donne la shefa, la réussite, la bracha, dans tout ce qu'on entreprend, dans nos foyers, sa lumière, sa présence, sa profondeur, que nous ayons une relation profonde avec toutes les personnes qui nous entourent. Amen, Ken Yiratzon, et que nous soyons tous écrits et scellés dans le livre de la vie, de la bonne vie. Amen, Ken Yiratzon. Merci beaucoup. Et Shabbat Shalom Mvorach.